Je vous invite à prendre votre Bible et aller dans le texte qui est devant nous ce matin. On commence une mini-série de 3 semaines. Pasteur Tony la semaine prochaine, Marco dans 3 semaines, où on veut parler des enfants. En début d'année, j'ai été dans une retraite de prière. Depuis 2 ans, je fais ça, un 48 heures, où je me retire à la fin de janvier à Granby pour une retraite de prière avec... On n'est pas beaucoup. Les retraites de prière, vous savez, c'est jamais où il va y avoir des centaines de personnes souvent. C'est assez limité de gens qui veulent y aller, qui se retirent. On est une trentaine, quarantaine. Et pendant cette retraite-là, il y avait des conférenciers qui étaient invités, des temps de prière. Et entre autres, une sensibilisation sur l'importance du ministère auprès des enfants. Et ça m'a beaucoup touché et encouragé ce ministère dont justement notre frère Jean-Sébastien Morin partageait. Il vient au Camp Patmos comme conférencier. Il est impliqué beaucoup dans les camps. Et moi, j'ai grandi dans les camps. J'ai grandi comme enfant à l'école le dimanche, à l'église, et à chaque été, à aller au camp d'enfants, au camp Patmos, puis au camp d'adolescents, au camp Patmos également, et de continuer après ça dans ma vie adulte, d'y aller, d'être prédicateur auprès des adolescents, 12, 13, 14, 15 ans, que j'ai fait pendant des années. Et ça m'a permis de grandir là-dedans. Et j'ai été choyé, j'ai été protégé avec 2 parents qui m'aiment. Mon père, vous savez, s'est converti juste un peu avant de se marier à 19 ans. Ma mère a accepté le Seigneur à 12 ans comme enfant également. J'ai accepté le Seigneur comme enfant. Et j'ai été beaucoup choyé et protégé dans mon climat d'environnement, de grandir à l'église de Chougamau. Les hommes et les femmes qui étaient là, les familles, c'était les mononcles des matantes, c'était très familial. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là de grandir comme enfant dans un milieu sensiblement sain. En 2012, en 2014, j'ai passé plusieurs mois, ma femme et moi, on l'a vécu pendant 5-6 mois de notre vie en Ukraine, et on a fait le tour de 5 différents orphelinats, dont 4 dans lesquels on l'a vécu pendant des semaines et des semaines, à côtoyer toutes sortes d'enfants, à jouer avec eux. Et même si, vous savez, il y avait la barrière de la langue, on ne se comprenait pas par notre langue, on se comprenait très bien. Un jour, ils m'ont traité de débile en jouant au football. Je me suis retourné de bord, je disais, en passant, le mot « débile », ça vient du français. J'ai bien compris ce que tu as dit. On se comprenait très bien. Et on a été exposés à beaucoup de fragilité. Je me rappelle un garçon qui était venu nous voir, puis qui m'a posé la question, puis j'avais très bien compris sa question en passant. J'avais appris à les réécrire un peu, puis avec les mois et les mois, là, notre oreille se fait. Hein. Il était venu me voir pour demander, après avoir eu beaucoup de jouets avec lui, je jouais au soccer, au foot avec eux autres, les gars dans le cours. Puis un des garçons était venu me voir, il avait 12 ans. Il est venu me voir pour me demander pourquoi je ne l'adoptais pas lui, puis que j'adoptais Manuel. Oh, moi et ma femme, on est partis en taxi cette journée-là en pleurant, en regardant. Le petit jeune homme qui nous a demandé ça parce qu'on passait beaucoup de temps avec. Puis il aimait ça avoir un adulte qui jouait avec eux autres dans le cours, puis qui n'était pas payé pour ça, puis qu'on avait du plaisir très simple à jouer ensemble. Dans la même orphelinat, il y avait une jeune fille qui était disponible à être adoptée, mais personne ne l'adoptait parce qu'elle avait le VIH. Ce n'était pas de sa faute. Elle avait eu de ses parents. Elle n'avait pas choisi. Elle a grandi dans un milieu défavorisé. Et à 13 ans, même si elle était adoptable légalement, c'était dur de trouver une famille qui était prête à la prendre chez eux, avec tout ce que ça impliquait comme crainte, comme médication, comme suivi médical, etc. On a des amis ici au Québec qui ont adopté justement une fratrie de 2 enfants qui étaient toutes les 2 atteints du VIH. Ils vont très bien, ils sont bénis. Mais ce n'est pas évident de voir ces situations. Puis je pourrais vous en nommer toute l'après-midi de temps au nombre de semaines et de temps qu'on a passé là-bas. Avoir des enfants qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Et vous avez des histoires autour de vous. On n'a pas besoin d'aller bien loin, puis on n'a pas besoin d'aller en Ukraine pour voir des histoires comme ça. On en a ici. J'ai une fille qui travaille à la DPJ, et j'ai souvent côtoyé des gens aussi qui travaillent dans ces milieux-là, et d'entendre toutes sortes d'histoires. Toutes sortes d'histoires. Donc, ma fille est confrontée continuellement dans son travail. Ma deuxième fille travaille pour la DPJ depuis quelques années. Et toutes sortes d'histoires qui arrivent, dont des fois elle nous partage, mais tout ça est confidentiel, avec aucun nom, etc. Il y a de la misère ici au Québec aussi. Vous savez, des fois, on pense que là-bas, dans d'autres pays, ils ont des orphelinats, c'est bien pire que nous autres. Voyons donc, c'est rien qu'un système social qu'on utilise comme filet pour des situations en pensant que parce que nous autres, on a la DPJ, on est déjà en cravate, puis qu'on place dans des familles, on est meilleur qu'un pays où il y a des orphelinats. C'est drôle de mentalité qu'on peut avoir des fois. Je trouve ça particulier. Alors qu'il n'y a rien de plus beau dans un système de DPJ que l'orphelinat. C'est des filets sociaux bien imparfaits que chaque société développe pour essayer d'aider lorsqu'on est dépassé par des situations de famille en détresse. Et des fois, en détresse de génération en génération. Certains de mes enfants, leur mère a eu de la difficulté et n'a pas pu prendre soin d'eux autres parce que sa propre grand-mère ne savait pas comment s'occuper de sa mère. Et ça se passe souvent de génération en génération. Je me rappelle un jour avoir conduit un long voyage, justement, jusque dans la région du Donbass, jusque la guerre actuelle, présentement, les villes où on a côtoyé, entre autres, un de nos enfants, certaines ont été détruites. Il y a des villes où j'étais à l'hôtel, la ville n'existe plus. 70 000 personnes, la ville est rasée au complet. Il n'y a rien de debout. Rien. Et non loin de là, la ville où Liam vivait. Un jour, un chauffeur du taxi qui nous avait amené tout le long, qu'on avait engagé pour le voyage, nous partageait comment 90 % des jeunes qui sont là dans les orphelinats, leurs parents étaient à l'orphelinat eux-mêmes, de génération en génération. Parce que les enfants blessés, meurtris, ont tendance des fois à reproduire les mêmes traumatismes à la prochaine génération, ayant de la difficulté à briser le pattern, avoir une nouvelle vie, un nouveau choix, et de ne pas reproduire. Et nous-mêmes, en Amérique du Nord, on a les mêmes patterns aussi, de génération en génération, dans les mêmes domaines. Et pourquoi je vous partage tout ça? Bien, j'ai été beaucoup protégé. Et j'en rends grâce à Dieu, je ne le mérite pas. C'est une grâce de Dieu que j'ai. Et je remercie le Seigneur pour mes parents aimants, très imparfaits, tout comme moi, mais qui m'ont aimé, le contexte dans lequel j'ai grandi. Mais je ne le mérite pas plus que l'enfant qui a grandi dans un foyer avec des parents qui ne sont pas aimants, qui n'ont pas pris soin. Et on se pose la question ce matin, où est le cœur de Dieu face aux enfants? Et vous savez, le texte qu'on va regarder ce matin, ce n'est pas un texte que Dieu a décidé, « Ah, là, je vais enseigner sur les enfants. » C'est une histoire où des hommes, en quête de grandeur, après avoir passé quelques chapitres, dans le chapitre 15, 16, 17, où ce qu'on voit Jésus qui va partager, entre autres, dans le chapitre précédent, qu'il va souffrir bientôt, il va partir, et ses disciples parlent de tout ça. Et là, Pierre, entre autres, dans la gang, vient de passer à travers différentes étapes où il a marché sur les eaux, l'apôtre Pierre a pêché un poisson, puis de l'embouche du poisson, il avait quoi payer ses taxes. Pierre a reçu les clés de l'Église, et il y a tous des débats entre les disciples, qui est le plus grand d'entre eux? Dans le royaume de Dieu. Qui va être le plus grand des disciples? Parce qu'on est disciples de Jésus, le Messie. Ils n'avaient pas encore compris c'était quoi le royaume. Ils agissaient un peu d'une façon enfantine. Et je vais expliquer tantôt la différence entre enfant et enfantin ou enfantine. Et Jésus savait, Luc nous dit que Jésus, le texte ne nous le dit pas, mais il savait ce qui était dans leur cœur. Il va leur parler et pour leur parler, et les confronter sur leur attitude, il va amener un enfant, un très petit enfant, devant eux. Et il va prendre cet enfant-là comme une leçon de chose pour l'attitude qu'il devrait avoir. Et là, il va parler de l'importance des enfants et pourquoi il les compare à des enfants, puis pourquoi on doit faire attention à ceux-ci, tout comme on doit faire attention aux gens aussi fragiles aussi, comme des enfants. Et de là nous vient ce texte-là où Jésus nous donne ici le cœur du Père Céleste face aux enfants. Et je vous le partage parce qu'on veut faire 3 semaines comme ça en ce début d'année scolaire où on a le programme pour les enfants, la jeunesse, etc. Puis comme Église, de cultiver une vision de l'importance des enfants. Ce n'est pas l'Église de demain, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on veut regarder ce matin avec le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a à dire à ce sujet et apprendre de lui et encourager aussi dans notre vie personnelle. Et dans notre ministère auprès des enfants. J'aimerais vous lire quelques versets, après quoi on va se verser dans ce texte et demander au Seigneur de nous enseigner. On va lire le chapitre 18, on va juste commencer avec les 7 premiers versets. À cette heure-là, alors qu'il y avait des disciples, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume de Dieu? » Parce que nous autres, les adultes, notre statut social, c'est important. Hein, notre standing, nos diplômes, nos accomplissements. Alors, on pose des questions brillantes comme ça. C'est qui va être le plus grand dans le royaume de Dieu? On a tout compris ici, après avoir suivi pendant 2 ans et demi le Seigneur. C'est qui va être le plus grand? Alors, Jésus est bien impressionné de cette question-là. Il dit, « Appelant un enfant, il plaça au milieu d'eux. » Et remarquez ici la position. On a l'impression que c'est un cercle ici, là, puis qu'il s'en est jasé. Puis il ne s'en va pas dans la périphérie du cercle. Il semble prendre le petit enfant. Et je peux imaginer ici un enfant de 2, 3, 4 ans qui amène, selon la description ici, puis le mot utilisé. Et il place en plein milieu. C'est comme si je prenais un enfant de l'école de dimanche ce matin, puis je l'amenais ici sur la scène, en plein milieu, devant la caméra, là, pour que tout le monde voit et qu'il devienne tout à coup le centre de l'attention. Ce petit enfant qui n'est pas à la hauteur de nos yeux, qui passe entre nos jambes le dimanche matin, qu'on espère qu'il ne court pas trop pour ne pas nous faire tomber, puis qu'on ne salue pas nécessairement parce qu'il est très petit. On salue les autres adultes. Jésus le prend, vient le placer en plein milieu pour que tout le monde le voit bien comme il faut et que sa autre chose soit percutante, visuelle et marquante pour ses disciples. Et il dit, « En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez ou ne vous convertissez pas et devenez comme des enfants, comme les enfants, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous tous qui voulez être grands dans le royaume des cieux, si vous n'êtes pas comme un petit enfant comme ça, vous n'entrerez même pas. » Tu parles d'un début de conversation, hein, sur l'humilité ici. Voilà donc qui se fera petit. Voilà, excusez-moi. Voilà donc qui se fera petit comme cet enfant ou qui sera humble. Voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même. Mais quiconque entraîne la chute, ou ici littéralement est une cause de scandale d'un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le précipite dans l'abîme de la mer. D'habitude, c'est ce que font les gangs ou la mafia. Hein? Une bonne brique bien attachée dans le fond d'un lac. Là, c'est Jésus qui en parle ici pour celui qui est très, très mal. C'est, ouf, c'est du sérieux, hein? Malheur. Le monde qui cause tant de chutes. Certes, il est nécessaire qu'il y en ait des occasions de chute. Des scandales, il va y en avoir. Mais malheur à l'homme par qui le scandale ou la chute arrive. Prions le Seigneur. Père Céleste, ce sont des paroles extrêmement percutantes ce matin que nous lisons. Un enseignement, Seigneur, percutant sur notre attitude hautaine, Seigneur, et l'attitude humble que tu nous invites à avoir comme disciples de Christ. Et sur l'importance des enfants en même temps, Seigneur, que tu soulignes, qui sont chers à ton cœur. Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, ce matin. Parle-nous personnellement. Encourage-nous. Ouvre nos yeux. Corrige. Amène-nous, Seigneur, à la repentance, s'il le faut. On te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Quel texte des Écritures? Percutant. Jésus est percutant. Et juste quand tu penses poser une question intelligente, le Seigneur montre que ce n'était pas la meilleure. Mais lui, il les cale pas. Il fait une leçon d'objet avec la mauvaise question pour amener la bonne leçon. Une leçon percutante qui, le Seigneur a vu bon de garder dans les Saintes Écritures 1950 ans plus tard pour qu'on lit encore les paroles de Jésus et qu'on soit encore percuté par cet enfant qu'il place devant nous et qu'il montre son importance, son attitude, qu'il utilise comme exemple pour nous parler d'une façon extrêmement percutante ce matin. Un petit enfant. Et cette histoire-là, le mot petit enfant utilisé ici, c'est vraiment pas juste un enfant en général. Quand on parle d'éduquer les enfants, Paul en parle dans le livre de Colossiens, d'Éphésiens, il utilise le mot technan. Ici, c'est paedion, c'est un petit enfant, vraiment plus petit. C'est pour ça qu'on va traduire un petit enfant. On peut penser ici à un enfant autant naissant, un tout petit bébé, que d'un enfant qui a 2, 3, 4 ans, extrêmement petit, vulnérable. On ne parle pas autant d'un enfant plus vieux à éduquer, on va dire, comme distinction. Des fois, le terme est utilisé en chevauchement entre les deux, selon une préférence. Mais on parle ici de l'aspect du format petit et vulnérable d'un enfant qu'il utilise ici. Et dans les textes parallèles, sur une cinquantaine de fois dans le Nouveau Testament, il y en a une dizaine qui sont utilisés juste pour cette histoire, quatre fois ici, les textes parallèles. Et la majorité, 45 fois sur 51, c'est dans les évangiles qu'on entend parler des enfants guéris par le Seigneur, entre autres. Dans Marc, dans le texte parallèle, on voit des enfants qui sont guéris, la petite fille de 12 ans, on l'appelle ainsi aussi, un enfant qui est guéri par le Seigneur, un autre enfant possédé d'un démon dans le chapitre 9 de Marc. Juste avant cette histoire-là, dans Marc, au chapitre 9, est guéri aussi par le Seigneur, la femme syrophénicienne. C'est un petit enfant. Et on voit le Seigneur sensible aux enfants, extrêmement sensible à leurs besoins, alors que dans la société de l'époque, ils étaient vraiment très secondaires. Il n'y avait pas grande importance, et c'est pour ça que c'est aussi surprenant. Et les disciples avaient tendance à les tasser, les enlever d'un genre, parce que dans le monde antique, les enfants avaient peu de valeur. Ils étaient largement relégués en marge de la société, et comme dans beaucoup d'endroits dans le monde. Dernièrement, j'écoutais l'histoire de M. Georges Muller, dans les années 1800, qui a ouvert des orphelinats à Londres. Et dans deux histoires que je regardais avec les enfants, en petite vidéo, dans les années 1800, c'était terrible le nombre d'enfants dans les rues à cette époque-là, laissés et relégués à une société dite chrétienne. Hein? Et il fallait des Georges Muller, il fallait celui qui a commencé l'armée du salut, monsieur... William Booth, merci, que j'écoutais. Les deux ont eu un grand impact dans ces années-là, 1800, de s'occuper à Londres des endroits négligés. Les enfants pas intéressés. Et il y en a un autre aussi que je lisais cette semaine. Leur impact incroyable, on n'a pas besoin d'aller bien loin pour voir que des enfants sont négligés, traînés les rues et donc vulnérables à être violés, à être volés, utilisés comme travailleurs alors qu'ils ont 8 ans. Et ça se fait dans bien des pays du monde encore aujourd'hui. C'est un problème il y a 200 ans, c'est un problème encore aujourd'hui. C'est juste qu'il y a des sociétés qui le font avec plus de cravates et d'autres plus en sandales ou nu-pieds. C'est seulement ça la différence. Mais le problème est tout aussi important. Et Jésus ici prend ce petit enfant-là pour leur présenter ici qu'il pose la mauvaise question. Vous êtes en train de regarder votre statue, mais les enfants ne regardent pas leur statue, eux autres. Pas du tout. Et Jésus donne ici beaucoup d'intérêt. Et l'argument qu'il va utiliser en particulier, ici, c'est leur symbole comme humilité. Au verset 4, il utilise cette expression, justement, cette expression de se rendre humble. Celui donc qui se rendra lui-même humble comme un enfant. Être humble comme un enfant. Le mot humble ici, c'est le verbe, mais le mot est utilisé pour parler de Jésus. Hein? Il est doux et humble de cœur, Jésus. Et on peut l'imaginer, Jésus, dans toute cette humilité, dans toute cette douceur, qui leur dit avec un ton tellement constructif, gentil, mais avec cette douceur, un ton tellement puissant dans cette illustration qu'il fait auprès d'eux. Je peux imaginer le ton, si vous ne vous rendez pas humble, comme ce petit enfant-là est humble, qui n'a pas de souci de son statut social, qui sait qu'il est vulnérable, qui ne dira pas à un adulte quoi faire. Il connaît sa place. Si vous ne vous rendez pas humble comme ça, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Et qui nous le dit, c'est celui qui est doux et humble de cœur. C'est celui qui connaît très bien les enfants et qui sait ce défi humain d'être humble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on ne parle pas ici de sous-estimer. On parle d'être nivelé, réduit à un plan. Métaphoriquement, c'est amener une condition humble, réduire à des moyens modestes. C'est utilisé aussi pour abaisser. On parlait de pauvreté, de quelqu'un qui a un âme abattu, d'un âme qui perd son orgueil. Ça, j'aime ça. Humble, c'est un âme qui perd son orgueil. Avoir une opinion modeste de soi-même. Se conduire sans prétention. Être dénudé de toute arrogance. Et c'est pas pour rien que dans Jacques et dans Pierre, on va lire ceci, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin que vous soyez élevés au temps convenable, au bon moment, par le Seigneur lui-même. » Ou encore, Jésus va parler plus tard à ces arrogants religieux, mais il dit, « Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse ou se rendra humble sera élevé. » Et c'est Jésus qui va dire ça un peu plus loin dans le même livre. Je vous lis ici un commentaire qui a quand même une certaine date, mais qui fait une belle observation ici. La grandeur du royaume de Dieu égale abaisser son orgueil et dépendre de Dieu comme un enfant dépend d'un parent. Accepter de croire en toute simplicité ce que Dieu dit. Ce qui fait le charme d'un petit enfant, c'est le sentiment qu'il a de sa faiblesse, de sa dépendance envers un adulte, un pourvoyeur. C'est encore la confiance avec laquelle il regarde sa mère, attend d'elle, l'écoute, l'interroge, la croit et l'aime sincèrement. Les dispositions naturelles de l'homme sont toutes l'inverse, soit à l'égard de Dieu, soit envers l'égard de son prochain. Donc, pour redevenir moralement semblable au petit enfant, il nous faut donc se convertir aussi. Le mot ici utilisé, ce n'est pas autant le mot convertir que se détourner notre ancienne manière de vivre, se détourner vers Dieu et soit rendu dépendant du Saint-Esprit. Voilà par où vient ce changement de s'humilier. Sinon, il est exclu du royaume, non seulement dans sa réalisation future et glorieuse, mais déjà dans la manifestation actuelle, et cela à cause de la nature même de ce royaume. Donc, ce qui est en train de dire ici le commentateur, c'est la Bible à noter qui a été écrite il y a environ 130 ans, c'est que ce n'est pas juste pour le royaume à venir, c'est maintenant aussi. Ça affecte toutes tes relations quand cette attitude-là n'est pas là, d'être humble, de se rendre humble. Et le Verbe souligne ici que ça demande un effort, mais l'effort humain est limité et nécessite l'aide de Dieu. Et l'invitation ici pratique est à une attitude humble, plutôt que de chercher le statut haut et approuvé et regarder les autres. D'apprendre à dépendre de Dieu avec simplicité, sans prétention. L'orgueil est à l'origine de tous ces obstacles autour de nous, relationnels. Quand les chrétiens, vous savez, vivent pour eux-mêmes, excusez-moi, et non pour les autres, c'est là que viennent les conflits, les divisions, qui sont inévitables, parce que le moi prend tellement de place. Mon droit, mes préférences, mon désir, mon temps, mon passe-temps, parce que je suis pas en termes de réfléchir en termes collectifs. Parce que c'est l'égoïsme qui prend toute la place. C'est mes ambitions, mon call. L'attitude nécessaire pour ouvrir la porte du royaume, dit Robertson, un professeur en théologie, la porte du royaume est de la même que celle qui doit être maintenue dans le royaume, pour être maintenue dans le royaume. Une conversion, un changement d'esprit par lequel l'individu reconnaît honnêtement ses propres limitations morales et la justice absolue du tout suffisant Dieu. C'est une condition préalable de voir notre limitation morale et la justice toute suffisante de Dieu. Cette attitude réoriente la vie de l'individu envers Dieu. Et ensuite, parce que le vertical est réglé, l'horizontal est affecté automatiquement dans ma manière dont j'interagis avec les autres. Mais ça commence avec cette attitude réglée avec Dieu. Un autre auteur l'a mis ainsi, « La vraie humilité signifie se connaître, s'accepter et être soi-même, son meilleur soi pour la gloire de Dieu. » Mais qu'est-ce qu'il veut dire par ça? C'est d'éviter deux extrêmes. La première extrême étant se mésestimer, comme Moïse, par exemple, qui sous-estimait, puis qui disait tout simplement que, écoute, je ne peux pas bien parler, des excuses à m'amoindrissant. Ou se surestimer aussi, se penser meilleur. Une personne réellement humble ne méprise pas les dons que Dieu lui a donnés, mais il l'utilise pour la gloire de Dieu. Je vous lis ici les paroles de Jésus, le chapitre suivant. Et c'est récité non seulement dans chapitre 19, verset 13-14, mais on va retrouver les mêmes paroles dans Marc 10 et dans Luc 18. Et Jésus dit ceci, et cette fois ici, le mot « enfant » va être utilisé dans ces textes parallèles. « Alors, on lui apporta des enfants, afin qu'il pose la main sur eux. » Imaginez, là, j'ai ce petit enfant qui pose la main sur eux. Ses parents qui amènent un petit enfant pour qu'il soit béni par le Seigneur et qu'il tient dans ses bras, qu'il met sur son genou, qu'il flatte son dos, qu'il le regarde dans les yeux. Vous savez, il n'y a rien comme parler à un enfant à sa hauteur, hein? Puis de ne pas juste parler à un enfant de même, mais de descendre, puis d'y parler à la hauteur des yeux, puis d'y montrer de l'importance quand on y parle. Ça fait toute une différence. Mais on est tellement occupé qu'on dit quoi faire de haut, on est des adultes, puis là, l'enfant est petit, et on s'y attend. Parce qu'il faut, pour faire ça, il faut que je m'arrête, hein? Il faut que je prenne le temps de regarder aux yeux de l'enfant, puis d'avoir un eye contact, puis de le mettre à son niveau pour lui dire quelque chose. Et là, il y a une attention qui se passe, n'est-ce pas? Et là, Jésus prend cet enfant-là, mais qui ne peut même pas être debout, dans ses bras. Parce qu'il y a des parents qui voulaient qu'ils bénissent leurs enfants. Des enfants qui couraient, qui avaient 2, 3, 4 ans. Vous savez, ces terrible twos qui n'écoutent pas, hein? Qui courent partout, puis qui sont durs à arrêter. Ils ont des batteries Energizer, là, avec le petit lapin, là, puis ça n'arrête pas, là, hein? Puis des fois, ils tombent. Surtout dans le char, hein? En venant de l'église. Ça dort dans l'auto, même 10 minutes, ça part vite. Aussitôt que c'est arrêté, puis attaché. Puis tu ne peux pas être tout le temps attaché, hein? C'est comme ça. Mais Jésus, terrible twos, il les prend dans ses bras. Il est béni. C'est vraiment beau de voir la scène. Il dit alors, il leur porta des petits-enfants afin qu'ils posent la main sur eux et qu'ils prient. Mais les disciples firent des reproches. Ils empêchaient. Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui sont comme eux. Il répète au chapitre suivant, et cette même analogie-là, dans Marc et dans Luc. Ça doit être assez important comme problème humain que Jésus doit le répéter. Tu sais, si Jésus dit quelque chose une fois, c'est important. Tu sais. S'il dit deux fois, tu as d'affaires à écouter. Mais il dit encore plus de deux fois. Et Dieu merci, les évangiles nous répètent. Et des fois, dans des contextes différents, avec des angles différents, certainement, ça veut dire que Jésus en a parlé à plusieurs occasions. Cette invitation à celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu, d'avoir cette attitude d'enfant humble. C'était le verset dans Luc qui a amené mon père à la conversion. Après 3 mois à visiter des églises alors qu'il avait 19 ans, à chercher là où il va écouter un enseignement puis pogner quelqu'un à tort en train de se tromper, de dire quelque chose de faux. Fait qu'il allait le mercredi soir chez les frères, la jeunesse du samedi, le dimanche matin chez les baptistes, le dimanche soir chez les frères, puis il recommençait ça 4 fois semaine. Il dit, c'est sûr, moi, il pognait à m'amener. Ils vont dire quelque chose qui n'est pas vrai. Puis après 3 mois, il a lu Luc, chapitre 18, verset 17, qui cite exactement les mêmes versets qu'on vient de dire. Et si tu ne changes pas pour être comme un petit enfant, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Et mon père s'est converti en 71, à l'âge de 19 ans, en lisant, parce qu'il voyait que lui, il n'avait pas une attitude d'enfant, une attitude d'arrogant humain, qui voulait tout raisonner, tout calculer, trouver à tort, dans son orgueil, écouter, analyser, pour trouver à tort quelque chose, plutôt que d'écouter Jésus et d'entrer dans une simplicité d'enfant, de croire ce que Dieu dit, de prendre Jésus, de prendre Dieu au mot, comme un enfant prend son parent, ses parents au mot, lorsqu'il n'est pas brisé dans ce monde. Et c'est ce qu'il fait. Vous savez, on dit que 72% des chrétiens, en tout cas, c'est une statistique nord-américaine, c'est jamais absolu ces affaires-là, ça dépend toujours des milieux de culture, mais quand même, de manière générale, la majorité, environ 72% des gens, se sont convertis comme enfants ou dans la jeune âge adulte, avant 25 ans. La majorité prendront une décision-là. Et à mesure qu'on vieillit, le statistique diminue au niveau de la conversion. Ça veut dire que c'est impossible, c'est pas ça l'idée. C'est que plus qu'on avance en âge, plus qu'on s'enorgueille. On ne s'améliore pas avec le temps. On n'est pas du bon vieux vin. OK? Non, on devient plus croûté, plus orgueilleux. Notre nature pécheresse ne s'améliore pas avec le temps. Même si on ramollit, le cœur s'endurcit. Amen? Parce qu'on n'a pas tendance à revirer facilement et de prendre ce revirement de la conversion, de se tourner à Dieu, de tourner dos à notre péché et notre orgueil. Ça demande un miracle de la part du Seigneur et c'est nécessaire. Je ne sais pas si vous avez pris cette décision ce matin. Vous pouvez être ici depuis longtemps, faire un acte religieux, en visite pendant longtemps et jamais avoir vécu la conversion, d'être né de nouveau, dit Jésus à un homme religieux un jour, être né de nouveau, une nouvelle naissance qui m'amène dans cette attitude d'enfant simple qui croit à son Dieu et qui le prend au mot et qui marche avec ce qu'il lui dit tout simplement. Maintenant, on peut confondre ici enfantin et cette foi d'enfant que Jésus nous invite à avoir. Et j'ai un auteur que j'aimerais vous lire, et c'était un pasteur de jeunesse, un vétéran pasteur de jeunesse. Pendant 45 ans, il a été pasteur de jeunesse. Il s'est spécialisé à travailler avec les enfants et les ados. Et Duff Robbins a écrit ceci sur la distinction entre la foi enfantine, qui, elle, est une foi, dans le fond, immature et c'est péjoratif, et une foi d'enfant, simplicité. Okay? Regardez bien la différence. Il met cinq caractéristiques. La foi enfantine, bien, ça croit ceci, la foi enfantine. Les bons chrétiens n'ont ni souffrance ni déception dans la vie. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu exauce toujours les prières. La foi nous aidera toujours à comprendre ce que Dieu fait. Les bons chrétiens sont toujours forts. Alors que la foi simple d'un enfant croit ceci, que Dieu utilise nos souffrances et nos déceptions pour faire de nous de meilleurs chrétiens. Que Dieu veut nous rendre saints, amener de la croissance. Parfois, Dieu va dire non ou attend à une demande et une prière. La foi nous aidera à demeurer sous la souveraineté de Dieu, mais quand nous n'avons aucune idée de ce qu'il fait, puis c'est correct. Notre force consiste à admettre notre faiblesse. Voilà la foi simple d'un enfant, de ce que Dieu dit. Pas une foi enfantine, immature, qui croit juste n'importe quoi, ou qui croit à la religion, ou qui croit à tout ce qu'on leur donne autour pour gober. Et je trouvais que c'était constructif comment il explique. Et la foi enfantine est égocentrique, exigeante. Elle s'attend à ce que Dieu nous protège de toutes les difficultés et nous rend la vie facile. Par contre, la foi d'un enfant est centrée sur Dieu. Elle croit qu'il utilise même les choses difficiles de la vie pour notre bien et pour le glorifier. Quel genre de foi est-ce que tu as ce matin? Quel genre de foi est-ce que tu as ce matin? Notre foi d'enfant, vous savez, se concentre sur le Père céleste. Et c'est ainsi qu'on gère nos peurs, les yeux sur le Père céleste. Donc, la première chose qu'il nous faut apprendre sur les enfants ici, alors les valeurs, la valeur des enfants aux yeux du Seigneur, c'est que la vraie grandeur est d'être humble comme un enfant. C'est la première attitude auquel Dieu nous invite à avoir, cette attitude d'humilité qui ne nous est pas naturelle, sur laquelle on passe plus de temps ce matin. Maintenant, quatre points que je vais regarder avec vous plus brièvement maintenant. Deuxième attitude, celle d'accueillir. Et on l'a lu déjà, je ne vous le répéterai pas, dans les versets 5 et 6, qui sont relatés aussi dans Luc, tout comme dans Marc. Cette invitation à accueillir les enfants. Et qu'en les accueillant dans le nom de lui, on l'accueille lui-même. Et peut-être pour vous illustrer ça, je vous raconterai cette histoire que j'ai vécue dans la dernière année. Quand j'étais en vacances, dans le temps des fêtes, j'en ai profité, je pense que c'était le 29 ou 30 de décembre, j'ai été à l'église de Drummondville, visiter l'église de Drummondville, l'église de la foi, une église sœur. Et le dimanche matin, j'étais allé avec mes trois enfants et on est allé visiter l'église de la foi. Et à la fin de la réunion, mon fils Mathias, qui était avec nous, en fait, j'avais quatre enfants, Mathias est avec nous, et Mathias, faisant ce que Mathias fait, il se promène, il fait de l'errance, et ceux qui connaissent Mathias, il fait la conversation avec les gens, puis entre autres, s'il y a une madame qui a un enfant dans ses bras, bien, il va aller voir la madame qui a un enfant dans ses bras, parce qu'il aime ça regarder les petits-enfants, ça le fascine, les bébés. Puis là, il pose des questions, puis etc. Et là, je suis en train de discuter avec quelqu'un, puis je vois qu'avec une dame, là, dans la vingtaine, avec un bébé, il était en grosse discussion, puis ça a duré, là, 15, 20, 25 minutes, comme faux. Fait qu'après avoir fini les conversations avec deux, trois personnes, je suis allé voir la dame, puis j'ai été faire connaissance, je ne la connaissais pas. Et finalement, pour voir que la dame avait porté beaucoup d'attention à Mathias, beaucoup de questions, fait qu'elle savait à peu près pas mal tout sur notre famille. Elle nous connaissait déjà à travers Mathias. Mais pourquoi je suis allé voir cette femme-là? Parce que cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait dimanche matin? J'ai pas compris. Elle a accueilli Mathias. Elle a passé par-dessus son handicap, son comportement qui peut être bizarre, sa manière de poser des questions très maladroites, mais très simple et honnête. Son intérêt pour l'enfant, puis elle a parlé de son enfant, elle a fait la conversation. Elle s'est intéressée à Mathias. Elle lui a posé des questions, Mathias a posé des questions, elle a fait la conversation, et mon fils a trouvé quelqu'un qui l'a accueilli. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'elle a accueilli mon fils. Vous savez qui qu'elle a accueilli à cette église-là ce matin-là? Mais elle m'a accueilli moi comme père. Parce que quand tu accueilles mon fils, tu m'accueilles moi aussi. Parce que j'aime mon fils. Quand quelqu'un traite mon enfant et l'accueille avec gentillesse, il donne de l'attention, mon cœur de père là, s'intéresse à quelqu'un comme ça. Parce que je me dis, hey, cette personne-là donne l'intérêt à mon fils, il est handicapé. Des fois, je trouve qu'il me tape ses nerfs parce que je suis un père, hein, puis égoïste, puis tout ça. Fait que là, le dérangement de mon enfant, hein, puis là, j'espère qu'il ne dérangera pas un autre. C'est plate de même, des fois, comme parent, comment on réfléchit. Hein? Je vous le concède. Mais c'est comme ça, souvent, dans notre pensée humaine. Puis là, j'ai peur qu'il dérange. Mais cette femme-là faisait juste accueillir mon fils avec tellement de bonté que j'étais touché par sa gentillesse. Puis on a cette conversation, puis après à connaître, finalement, c'était un couple qui était français, qui venait pour considérer d'être pasteur au Québec. Et cette femme-là accueillait mon fils ce matin-là. Et en l'accueillant, elle m'accueillait moi et toute ma famille. Et quand vous accueillez un enfant, le Seigneur nous dit, c'est lui que t'accueille. Quand tu l'accueilles en son nom, tu l'accueilles lui-même. Et si moi je ressens ça comme père, imaginez, qu'est-ce que le Père céleste ressent lorsqu'un adulte s'intéresse sincèrement au bien-être d'un enfant, lui porte attention, descend à son niveau, lui pose des questions sur son nom, s'intéresse à lui, et pose des questions pour faire la conversation, et répond à ces questions tellement simples et pourtant tellement intéressées de l'enfant, comme si c'était un autre adulte à mon niveau. Et qu'on a besoin de ça. Et qu'on a besoin de ça. Moi, je me rappelle de cet homme quand j'avais 13, 14, 15 ans, puis il était en célibataire, il avait 21, 22, Mario, il m'accueillait le dimanche. Il venait me donner la main, moi, l'adolescent. Et que j'aimais Mario. Mario avait des défis de santé mentale. Moi, je n'en étais pas conscient comme jeune homme. Mais Mario m'accueillait, gentiment, sincèrement. C'est vrai, hein? Un cœur, parce que Danny s'en rappelle, un cœur sain qui s'intéressait à moi, de manière pure, puis qui me serrait la main chaleureusement, puis qui me posait des questions. Moi, ça me touchait comme adolescent d'avoir un adulte qui s'intéressait comme ça. Combien notre Église peut avoir un impact sur nos enfants si on ne salue pas juste entre adultes, mais qu'on salue les enfants, qu'on apprend à connaître leur nom, qu'on s'intéresse à eux, même si ce n'est pas mon petit-enfant, même si ce n'est pas mon neveu, ma nièce, que je veux apprendre son nom autant que le nom de son parent. Puis c'est important. Parce que quand tu t'intéresses à cet enfant-là, tu montres de l'intérêt à toute sa famille, à ses parents qui l'aiment, et au Père céleste qui est son Père éternel. Et Jésus ici, il porte une attention tellement belle. Accueillir, accueillir. On pourrait l'appliquer dans tellement d'endroits. Qu'est-ce que c'est d'accueillir, de donner du temps, du service, d'être à l'école dimanche, un enfant dans le quartier qui traîne avec vos enfants puis qui colle tout le temps, fatiguant. Mais peut-être qu'il n'est pas bien chez eux, qu'il aime ça être chez vous. Hein? Puis des fois, il faut que tu l'invites chez vous pour souper parce qu'il ne décolle pas. Ben oui, peut-être parce que c'est plus bon chez vous que chez eux, la bouffe. Que l'ambiance autour de la table, il y en a. Chez eux, il n'y en a pas. Qu'une heure de repas, il n'y en a pas chez eux. Tu t'arranges dans le frigidaire. Puis il y a juste 11 ans. Puis il est mieux chez vous. Ça, là, c'est accueillir un enfant. Aller garder gentiment chez quelqu'un pour rendre service. Un couple. Pour qu'il puisse sortir en couple, c'est accueillir un enfant. S'impliquer à jeunesse, à votre travail. S'intéresser aux enfants de vos collègues. Demander des nouvelles de leurs enfants. Il y a tellement de manières de c'est libre à votre imagination. Mais Seigneur, peux-tu m'aider à accueillir des enfants autour de moi, dans mon voisinage, dans mon travail, dans mon giron à moi? Il y a des enfants à accueillir. Et des enfants, ce n'est pas juste des enfants physiques. Des fois, c'est des enfants émotionnels, vous savez. C'est des gens qui sont adultes, mais qui sont encore enfants, émotionnellement. J'en vois toutes les semaines. Que tu vas poser des questions, mais qui ne te poseront jamais de questions parce qu'ils sont trop centrés sur eux-mêmes. Puis que tu parles une heure de temps, puis que tu vois la détresse. C'est un adulte qui est brisé, profondément brisé, qui manque de quelqu'un qui l'écoute, qui prie avec, qui manque de la compassion, qui ne juge pas. dans les immaturités qu'il a. Il faut être patient avec parce qu'il faut que tu expliques des choses, parce que peut-être il est susceptible, sensible, une sursensibilité à cause des blessures vécues. Peut-être c'est quelqu'un autour que tu dois accueillir qui a des émotions d'enfant. Seigneur, qui tu veux que j'accueille ce matin? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que Jésus m'invite à accueillir, d'avoir cette attitude accueillante, sensible. Une attitude humble, une attitude accueillante. Et ça, ça touche le cœur de Dieu. Et d'éviter, à cause de ça, les scandales, il nous dit. Et c'est là que vient tout à coup le changement de ton. À cause que tu es invité à avoir un changement d'attitude, d'accueillir, mais si tu ne fais pas ce changement-là d'attitude, et que là, tu cultives maintenant une attitude qui amène à te foutre des enfants, et là, devenir pour eux une occasion de scandale, de scandaliser littéralement. Et l'apôtre Matthieu, qui écrit ce livre, utilise le mot scandale souvent. Il faut croire que c'était quelque chose de très commun dans le langage hébraïque. Et dans parce qu'il y a des situations de scandale partout autour de nous. Et il dit des situations de scandale envers les enfants, c'est grave aux yeux de Dieu. Accueillez-les, mais si vous ne les accueillez pas, puis vous êtes une occasion de scandale, et voici ce qui va vous arriver, parce que le Seigneur, il a égard pour eux, puis il tient à leur bien-être. Et si quelqu'un agit avec une piètre attitude qui devient une occasion de chute choquante pour un enfant, le Seigneur émet ici un jugement très sévère à l'égard de quelqu'un qui fait ça. Je vous le relis. Mais si quelqu'un entraîne la chute au lieu d'accueillir, entraîne la chute, scandalise un seul de ses petits qui croit en moi. Donc, vous faisiez un geste qui va minimiser sa foi, un geste qui va décourager sa foi, un geste qui va le mettre en danger, qui va amener des brisements dans sa vie. Il va en avoir des brisements. Fais juste t'assurer de ne pas y participer, toi. Puis que si tu y participes, bien que tu te retournes auprès de Jésus pour le reconnaître, demander pardon à cet enfant-là et de demander pardon au Seigneur. Et lui te lavera du sang de Jésus pour effacer tout péché. Et si, vous savez, on est tous des humains. On aura tous causé un scandale à quelqu'un à quelque part. Fait qu'on est tous à quelque part en danger de tout ça, là. On parle pas juste de gros scandales sexuels, de gros scandales que tu es amené en cours, de gros scandales qui est un crime, là. Il est préférable qu'on lui attache au cou. Cette grosse meule, vous savez que les ânes, une grosse meule ronde, là, puis qu'il y a des ânes autour qui tirent cette meule-là pour écraser, hein? Vaut mieux y attacher. Nous autres, on utilise ça au Capatmos pour attacher une meule comme ça, pour attacher les câbles, puis les envoyer dans le fond, pour être sûr que les câbles sont bien attachés puis ne vont pas partir. Mais autour du cou de quelqu'un, c'est pas drôle. Tu ne remontes pas. Il parle ici de la sévérité d'un jugement pour quelqu'un qui prend à la légère l'enfant et qui crée un scandale. Et là, on va dire, malheur au monde à cause de tant de chutes. Il va en avoir certainement, mais arrange-toi de ne pas en faire partie. Il fait la différence entre, ça va arriver, mais le responsable moral du geste, il y a une différence. Et donc, ici, humble, accueillir, sont les deux attitudes qu'il invite. Et si on ne le fait pas et qu'on n'accueille pas, bien, il risque d'arriver deux choses. Gravité de faire tomber un petit, de scandaliser. Donc, les deux attitudes, s'ils ne sont pas là, il y a deux choses qui risquent d'arriver. La première, c'est le scandale auquel le Seigneur émet un malheur. Le péché est tellement sérieux qu'il vaut mieux de perdre, même, il dit au verset suivant, une main ou un pied ou un œil. Regardez bien ici. Si ta main, au verset 8, ou ton pied entraîne ta chute, coupe-la. Jette-la au loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot et estropié que d'être jeté les deux mains et les deux pieds dans le feu de l'enfer, dans le feu éternel. Écoutez, j'aimerais juste vous dire ici, là, moi, je n'oserais pas dire une chose comme ça. Mais celui qui le dit, c'est Jésus. Et celui que je viens de lire, c'est celui qui est doux et humble de cœur. C'est pour ça que je me permets de lire des mots aussi durs. Jésus nous avertit, dans toute son humilité, avec un avertissement sévère et radical, pour nous brasser ici sur la sévérité de ne pas bien traiter un enfant et de ne pas avoir un changement d'attitude, d'humilité et d'accueillir. Le danger, c'est qu'on choque et qu'on blesse et qu'on brise un enfant. Puis si c'est pour être un de tes membres, t'es mieux de t'en débarrasser, d'être radical avec le péché dans ta vie, que tu minimises, que tu entretiens, que tu fais des calculs à savoir, « Ben, si je fais ça, c'est pas si grave. » Sans réaliser comment loin que va t'amener ce péché-là dans la vie et amener à blesser ton enfant. Si ton œil entraîne ta chute, arrache-le, jette-le loin. Vaut mieux pour toi que tu aies un borgne, littéralement que tu aies un mono-œil. C'est ça qui est écrit. Dans la vie, que d'être jeté les deux yeux dans la géhenne de feu. Il utilise un autre terme pour parler ici de l'image, parce qu'il y avait une espèce de gros endroit de poubelle dans la vallée de la géhenne, qui n'était pas loin de Jérusalem, un endroit qu'on peut visiter aisément, où c'est là qu'on mettait la poubelle, les choses qu'on brûlait, il y avait un feu continuel, et ça devenait une image ici du feu éternel. Parce qu'il y avait toujours un feu là, parce qu'il y avait toujours des poubelles à brûler, des choses qu'on jetait là continuellement. Même des fois, ça pouvait être des corps de gens abandonnés, non répertoriés. C'est un endroit qui faisait des frissons. Il fait allusion à ça, pour donner cette image-là du jugement éternel de Dieu et de la sévérité de celle-ci, de ne pas le prendre. Il nous invite ici à être radical. Il ne nous invite pas ici à se mutiler. Là. Commencez pas à vous arracher les yeux. Cette semaine, là, on va vous enfermer parce que ce n'est pas normal de se couper une jambe, OK? Et de s'arracher un œil. Ça prend beaucoup de courage aussi, il faut le faire. Là. Mais ce n'est pas l'acte physique parce que ça n'enlèvera pas ta tentation, n'est-ce pas? Ça n'enlèvera pas ta tête. Puis tes tentations, il est en train de dire, il faut que tu sois radical avec le péché dans ta vie, parce que si tu le laisses là et tu l'entretiens, tu le minimises, tu le rationalises, tu calcules le prix de ton péché, puis tu dis, ben je suis capable de gérer avec tel nombre de péchés, ça ne devrait pas aller plus loin que ça, ça risque de te coûter plus cher que tu le penses. Et combien de pères et de mères ont blessé leurs enfants en calculant des péchés qu'ils minimisaient et finalement se sont rendus compte qu'en vieillissant, qu'on vit avec du regret d'avoir blessé notre enfant parce qu'on cultivait tel péché, qu'on minimisait tel péché. Parce qu'on a refusé de prendre l'exhortation, et j'en fais partie, là, au sérieux du Seigneur d'être radical et d'être sévère avec le péché dans notre vie et d'user de discipline de soi pour prendre au contrôle. Mais tu ne peux pas y arriver tout seul. Fait, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu retournes au début du chapitre, l'attitude douce et humble. Il faut que tu te repentes. Puis là, tu vas avoir les outils pour interagir radicalement avec le péché. Mais tu ne peux pas le faire tout seul. Tu essaies de gérer, de limiter les dégâts. Mais tu vas en avoir des dégâts. Et on est sur terre, dans un monde brisé. Il va y avoir des dégâts. Est-ce que j'ai Jésus pour gérer mes dégâts? Est-ce que j'ai Jésus dans ma vie pour le pardon de mes péchés puis gérer ma culpabilité passée? Parce qu'on a tous, d'une manière ou d'une autre, calculé à un moment donné et causé des torts qu'on ne pensait pas causer, pour lesquels on se sent coupable. Et vous savez, si vous avez été reproché par vos enfants un péché, souvent ils ont raison. J'ai découvert que si on l'accepte puis on demande pardon, ils sont gracieux pour nous pardonner. Et que ça aide à guérir la plaie, la déception. Et c'est bon pour nous, pour notre orgueil. Suis-je un modèle pour les enfants ou suis-je un modèle qui fait trébucher? On doit s'examiner sincèrement et demander l'aide de Dieu. Choisir la sainteté, le collectif, plutôt que de garder mes habitudes personnelles, mes préférences et mon droit. J'ai été touché cette semaine par un ministère que notre association a fait la promotion. Cette semaine, Steve Jones, le président, a envoyé un communiqué pour faire connaître le ministère qui s'appelle Liberté au Bangladesh. Et Steve partageait l'histoire d'une jeune fille de 15 ans avec le nom fictif de Laura. Elle était prisonnière du terrible monde de la traite sexuelle. 15 ans. Depuis 6 mois, elle avait été enlevée. Maltraitée, exploitée, trahie par un voisin de confiance en plus. Elle était au Bangladesh. Son enfance lui avait été volée. Puis la liberté est survenue par une simple dénonciation courageuse. Les policiers sont rentrés dans ce lieu où elle se trouvait et elle a été libérée. Elle a été secourue en Asie du Sud, puis placée en post-cure et entreprendre maintenant une voie de guérison pour la ramener aussi vers son foyer. Et notre directeur était en voyage il y a quelques mois. Il a rencontré le pasteur et son épouse de l'Association des églises baptistes du Bangladesh, 500 églises, et ils ont un ministère de secours pour aller retrouver ces enfants-là qui sont volés dans ces pays-là du Bangladesh, qui sont emmenés dans d'autres pays pour la traite sexuelle. Et l'association a décidé de se joindre à ce mouvement-là d'une autre association locale au Bangladesh pour amasser 500 000 cette année comme association pour aider leur ministère là-bas, qui avec 10 000 $ ils arrivent à faire des recherches, à travailler avec des équipes pour trouver, dénoncer et sortir pour chaque 10 000 $ un enfant de cette traite sexuelle-là, à cause de tout le temps que ça demande pour enquêter, faire des recherches, etc., dans toute cette région-là, parce qu'ils sont déportés après ça vers d'autres pays. Un ministère de compassion extrêmement radical dans lequel notre association va participer cette année avec une autre famille à l'autre bout du monde pour aider des enfants dont on vole l'enfance, l'innocence, et qu'on donne une occasion de chute et qu'on utilise leur sexualité à des fins égoïstes et personnelles. J'ai trouvé ça merveilleux, une belle œuvre de compassion dans laquelle on peut s'investir en toute simplicité en donnant de l'argent pour ce ministère-là, outre tout ce qu'on peut faire personnellement, parce que ça existe. Et on peut faire partie. On ne peut pas sauver tout le monde, mais là où je peux participer, Seigneur, aide-moi à accueillir et à participer. Et à participer, à prendre soin de ma vie personnelle pour ne pas être une occasion de chute, de scandale pour les enfants autour de moi. Quatrièmement, le mépris. Regardez bien le verset 10. C'est intéressant. « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits. » Tout à coup, on utilisait le mot « enfant », »,« petit-enfant », »,« petit-enfant ». Et là, au verset 10, au verset 6, on utilise cette expression, au verset 5, « ce petit »,« micro ». C'est vraiment le mot utilisé en grec, hein, « un micro », quelque chose, c'est tout petit. Hein? Ce petit microbe-là, là, ce petit enfant-là, là, tout petit, en parlant de sa petitesse, sa fragilité. Gardez-vous de mépriser. Encore là, ici, il y a une attitude. Si je n'ai pas l'attitude d'humilité, si je n'ai pas l'attitude d'accueillir, je risque d'avoir l'attitude de choquer, de penser juste à moi et de créer des scandales, ou de mépriser ici. Aucun de ces petits, car je vous le dis, aux cieux, leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père qui est, et notez bien ici, mon Père qui est aux cieux. Wow! Une déclaration, ça. Attention à ceux qui voudraient commencer à prier l'ange protecteur des enfants. C'est la seule place dans la Bible qu'on a une telle notion. Et c'est Jésus qui le dit. Il n'y a aucune explication plus tard. C'est quoi ça, ces anges-là, pour chaque enfant, devant Dieu? C'est pour le moins particulier. Et le Seigneur n'en dit pas plus, alors il ne faut pas aller plus loin que ça. Il nous dit ici qu'il y a comme des anges qui représentent les enfants. Et on sait que les anges sont quoi? Ils sont au service du Seigneur et ils agissent aussi comme ses émissaires pour protéger les enfants de Dieu. Mais nulle part dans la Bible, on parle, comme on le retrouve dans la religiosité du passé, de prier des anges, tout comme prier des saints, n'est-ce pas? Hein? Les anges sont les serviteurs. Ils n'accueillent pas nos prières, ils sont les serviteurs de Dieu. Mais là, ici, Jésus, dans son argumentaire, pour montrer comment ils sont précieux, les enfants, comment les enfants sont protégés de la part de l'Éternel, il dit, « Mon Père dans les cieux, il accueille leur ange. » Ils ont un ange, les enfants-là, puis il a accès à la présence de Dieu pour parler de ce qu'ils vivent, ces enfants-là, et d'intercéder ou de protéger, je ne sais pas trop, mais il y a quelque chose qui est là pour dire, ils sont précieux devant l'Éternel, ils sont protégés devant l'Éternel, même si à l'apparence, ils ont de l'air dans une situation chaotique. Sachez, fais bien attention que tu en prends dans un d'eux autres. Parce qu'il y a un représentant devant l'Éternel et il y a un protecteur et c'est le Père céleste à qui les anges sont ses outils, ses serviteurs et qui peut faire quoi que ce soit. Wow! Tu parles d'un argument. Précieux et protégé. Fait qu'avise-toi pas d'avoir une attitude méprisante à ces enfants-là fatigants. C'est tellement facile pour nous de tomber dans ce piège-là de mépris. Et le mot mépris ici est assez fort, oui, je le concède, de regarder et de penser moindre et de regarder en bas ce qui est petit avec une pensée de mépris. C'est triste de voir des fois ce ressenti envers les enfants qui est... J'ai pas de mots. Mais ce verset unique nous donne ici... un argument extrêmement fort sur l'attitude condescendante envers les enfants est très dangereuse. Les enfants sont sous une attention spéciale de Dieu. Les anges expriment leur valeur ici, associée à leur nom, et dignité unique qu'ils ont devant Dieu. Ton enfant a une dignité unique. L'enfant du voisin fatigant, l'enfant dans ta classe fatigant, le petit qui court trop vite, puis tu trouves qu'il devrait faire attention. Dieu a un regard et une attention particulier pour lui. Et pratico-pratique, ce que ça me dit, c'est que de jamais considérer un enfant, un petit, comme insignifiant. Parce qu'il a une valeur, une dignité que Dieu, que Jésus lui donne ici. Et traiter chacun comme étant précieux. Et là, ici, je parle de chacun, les enfants, tous, d'être précieux aux yeux de l'Éternel. Au lieu du Père céleste, qui va être réutilisé un peu plus loin au verset 14. Donc, finalement, deux attitudes, humilité qu'on est invité à avoir, accueillir, et si on ne les a pas, on risque de causer scandale et avoir du mépris, un regard de haut en bas. Et là maintenant, Jésus démontre combien nous devrions être dévoués pour eux finalement. La parabole de la brebis perdue, appliquée ici aux enfants, aux petits-enfants égarés, et je vous la lis. Quel est votre avis? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles vient à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le déclare, il en a plus de joie. Et là, remarquez ici l'émotion, la joie. La joie du Père Céleste, la joie du berger. Plus de joie que des 99 autres qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est dans les cieux veut qu'aucune de ses petits ne soit perdue. Voilà le cœur de Dieu. Qu'on soit dévoué à pourchasser celles, comme dans ce ministère-là qu'on vient de mentionner, qui se sont faites égarer. Vous savez, une belle illustration de tout ça, du contraire et d'un bon exemple, contraste entre les deux. Quand je lisais les mots ici, ça m'a fait penser à Hérode au début du livre de Matthieu. Qu'est-ce que Hérode voulait faire? Lui, il cherchait à tuer. Il cherchait à trouver pour faire périr littéralement. Mais les mages, eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient le Fils de Dieu et quand ils virent, ils se réjouirent. Dans le deuxième chapitre, on a l'image de quelqu'un qui veut tuer et l'image de quelqu'un qui cherche le Fils et qui se réjouit en l'ayant trouvé. Est-ce que tu t'es réjoui en trouvant le Fils de Dieu? Le seul qui peut changer ta vie et qui peut te donner ce changement d'attitude pour les enfants. Et éviter d'être une occasion de chute, de mépris, et d'être prêt à te dévouer, à chercher ces brebis, ces enfants égarés, ces enfants brisés, ces enfants qu'on a besoin de protéger. Et ici, je ne parle pas de faire des signalements toutes les semaines à la DPJ. Là. C'est pas de ça que je parle. Là. Ça ne règle pas la vie d'un enfant, honnêtement. C'est des cas extrêmes. Des fois, c'est pire enlever un enfant d'un foyer et exposer à d'autres foyers qu'il y a d'autres brisements. Ce n'est pas une solution facile. C'est un filet social bien imparfait, tout comme les orphelinats. Attention, là. Ce qui va sauver un enfant, c'est avant tout le Seigneur. Quand il y a un cas criminel, on doit dénoncer, et on doit dénoncer ce qui sont des actes criminels, évidemment. Mais que le Seigneur nous donne ce dévouement de chercher ces brebis brisées, d'y participer, d'aimer, de protéger. Un enfant dépend totalement des autres et doit vivre par la foi. Un enfant intact accepte sa place dans la vie, en profite de la vie et n'essaie pas d'agir comme quelqu'un de plus âgé. Celui qui aura le moins l'idée qu'il est grand sera le plus grand, a écrit un auteur bien connu. Et la manière dont nous traitons les enfants, y compris ceux qui sont d'une simplicité émotionnelle d'enfant et qui ont une foi d'enfant, montre à quel point nous pratiquons l'humilité. Les accueillir ou est-ce que nous les méprisons? Les imitons-nous avec l'attitude qu'on doit avoir ou faisons-nous trébucher ces enfants? Voilà des questions essentielles ce matin à se poser. Je termine avec l'application pratique suivante que je vous invite à réfléchir et repasser les leçons de ce matin. Les enfants sont un modèle, le Seigneur nous dit, face à leur humilité. Est-ce que le Seigneur a amené dans ma vie cette humilité de reconnaître mon besoin de Jésus, de reconnaître ma fragilité et de reconnaître la toute-puissance du Père céleste? Ça commence là, les amis. Et c'est l'invitation au cœur de Jésus. Pas juste de protéger les enfants, qu'on ait ce cœur qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Et peut-être que tu n'es pas encore entré dans le royaume de Dieu parce que tu n'as pas encore vécu ce brisement-là d'arrêter, de t'ostiner, de raisonner, d'être hautain, mais d'accepter Jésus comme le seul chemin, vérité et vie possible. Le modèle des enfants doivent être accueillis comme lui-même. Que le Seigneur nous invite à mettre en pratique cette humilité-là en se plaçant à genoux. Hein? Juste se mettre à la hauteur d'un enfant. Je ne sais pas quel accueil qu'on doit faire chacun d'entre nous, mais il y a un endroit où certainement on peut mettre le genou à terre et accueillir un enfant. Ça ne sera pas toujours par un genou à terre, ça peut être par toutes sortes d'actions. Vous comprenez? De se mettre au niveau, de s'intéresser, d'intervenir dans une situation au niveau d'un enfant, donner l'attention qu'il a besoin. Peut-être en étant beau-père, belle-mère, un enfant du quartier, dans votre travail, je ne sais pas où, ici dans votre service à l'Église, que le Seigneur nous montre, Seigneur, où est-ce que je peux accueillir? Où est-ce que je n'accueille pas? Où est-ce que je peux accueillir? Ils doivent être protégés de toute influence qui les amène à la chute, à l'égarement de la foi. Que le Seigneur nous aide, on va parler de transmission de la foi, d'éducation dans les prochaines semaines avec Tony et Marco. Ont une dignité spéciale devant Dieu, leur ange qui est devant le Père céleste, et sont recherchés avec amour lorsqu'ils s'égarent. J'aimerais vous laisser avec une dernière prière, une dernière réflexion. J'ai invité le musicien à s'approcher pour terminer dans un chant. Pour Jésus, vous savez, les enfants ne sont pas en attente de devenir importants. Ils le sont déjà. Ils sont centraux à la vision du royaume de Dieu. Utilisés pour nous enseigner. Utilisés comme image aussi de montrer si on aime vraiment Jésus. Leur valeur nous appelle à changer notre regard, notre façon d'éduquer, de protéger et de transmettre la foi. Mais la clé dans tout ça, vous savez, Jésus la donne. Deux fois, il le dit. Faites-le par rapport à mon Père céleste, votre Père céleste, verset 10 et le verset 14. Pourquoi? Parce que c'est sous le regard du Père céleste que tout ceci se passe. C'est selon le cœur du Père céleste qui a envoyé Jésus. Et c'est ce Père céleste qui envoie Jésus pour sauver nos âmes perdues et les âmes des enfants perdus. Que le Seigneur nous accorde d'accueillir Jésus. Et qu'en accueillant Jésus, on puisse participer à accueillir et prendre soin des enfants comme il le veut. Prions ensemble. Seigneur, je ne sais pas ce matin qui ce matin résiste et n'a pas encore reçu Jésus, mais Seigneur, je t'invite à faire ta demeure dans le cœur de celui ou celle qui résiste ce matin. Qu'un esprit de repentance, un esprit d'humilité puisse entrer dans le cœur de cet homme et cette femme qui résiste, qui reporte, qui explique, qui raisonne. Seigneur, brise notre orgueil, oh Dieu. C'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir, de briser notre orgueil pour tomber à genoux devant le Tout-Puissant. Et c'est ce qui était sur ton cœur, Seigneur, pour les disciples, qui viennent qu'à une foi sincère d'enfants en Jésus. Merci, Seigneur, de cet enseignement précieux que tu as donné à tes disciples et que tu nous donnes à nous, tes disciples, à nous qui clamons être tes disciples aujourd'hui dans l'Église de Christ. Parle à nos cœurs ce matin, là où ce que tu veux, corrige. Et qu'on puisse, Seigneur, accueillir. Et qu'on puisse encore accueillir, Seigneur, et accueillir. Et que tu nous montres comment accueillir, Seigneur. Et que tout ça passe par Jésus en premier, par ce changement de cœur. Et peut-être ce matin, tu es là et c'est toi qui dois prendre cette décision. Et peut-être faire cette prière suivante, Seigneur, je te demande pardon pour mon orgueil. Je te demande pardon de me prendre pour quelqu'un d'important, de haut, de regarder les gens de haut, de te regarder de haut, je reconnais ma fragilité, ma faiblesse, je suis pécheur et je te demande pardon. Je veux dire merci d'avoir envoyé Jésus pour prendre la place de mes péchés, la mort que je méritais, mais qui m'aurait donné aucune délivrance. Mais je veux croire en Jésus qui a payé à ma place. Tu as donné ma vie. Sauve-la, Seigneur. Je veux te suivre. Prends-moi comme ton enfant, s'il vous plaît. Que je sois précieux et protégé à tes yeux. Seigneur, je te prie pour nos enfants à l'Église, que tu puisses, Seigneur, les protéger, qu'on soit un lieu qui est un havre de paix pour les enfants, qu'ils soient aimés, protégés, qu'ils soient enseignés dans la parole de Dieu, qu'on puisse s'encourager les uns les autres comme Église, se supporter. Lorsqu'un est faible, que l'autre soit fort pour supporter un autre foyer qui vit un moment de difficulté. Seigneur, on a besoin de ton aide pour avoir cette attitude, pour prendre soin les uns les autres et pour regarder ce qui m'avantage. Parce que parfois, accueillir, Seigneur, ça coûte. Parfois, accueillir et aimer, ça coûte cher. Il y a un prix à payer, comme Jésus a pris un prix à payer pour nous accueillir. Il y a des sacrifices à faire pour aimer d'autres enfants, pour accueillir les autres. Aide-nous, Seigneur, à guérir de ces blessures. Aide-nous à ne pas se priver d'avancer et d'aimer, Seigneur, par crainte de problèmes, mais qu'on avance par la foi, par obéissance à ta parole. Que tu vas prendre soin de nous en accueillant les choses qu'on ne sait pas quoi faire, comment faire, les choses qu'on trouve difficiles en accueillant. Que tu vas nous donner la grâce suffisante. Et on te demande, Seigneur, tout cela, dans le nom de ton Fils Jésus. S'il vous plaît, fais-le dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.